Staline, c'est le rire de Béria. C'est la rime racoleuse d'Aragon et d'Elsa. C'est le cri des enfants morts à Karaganda. C'est le cri des enfants morts à Karaganda.
À côté de son âne, sur un sentier de terre, un très vieil homme marche, pieds nus dans ses sandales. Et c'est en Palestine, et ça n'est pas hier, non, c'est ce matin même, dans les collines pâles. Regarde bien, dit-il, c'est une route qui passe à deux pas larges et lisses. Et s'en va où je vais. Elle n'est pas pour moi, ni pour ceux de ma race. À des chemins d'exil, nous sommes condamnés. À des chemins pierreux, par la loi des soldats, qui font une prison de mon pauvre pays, qui bâtissent des murs et ne me laissent pas aller jusqu'à mon champ, tirer l'eau de mon puits. Regarde bien, dit-il, dans l'or de la vallée, le père de mon père et son père avant lui, patient. Pareillement, élevé l'olivier, j'ai fait ce qu'il faisait. Mon fils m'aurait suivi, mais bardé de fusils, des flammes plein les yeux, des hommes sont venus, implacables, hurlant. Cette terre désormais nous appartient, va-t'en. Me voici l'étranger, le malvenu, le gueux. Regarde bien, partout montent leurs forteresses, où que le regard porte, blanche sur le ciel bleu, le fou qui s'en approche, il le tue, il le blesse. À croire que le soleil et le vent sont à eux. Sur le chemin montant, le vieil homme s'arrête. Ils ont les bulldozers, les blindés, les canons. Je n'avais que ma sueur, ma bête et ma charrette, et mes seules mains pour défendre ma maison. Ils ont le feu du ciel, les bombes et le vacarme contre l'acier brûlant. Que peut un cœur qui bat? Et je n'ai plus de toi, et je n'ai plus de larmes, mais suis encore debout, et je resterai là. Le vieux ajoute encore, et c'est aujourd'hui même, avant de s'en aller, sans plus se retourner, avant de disparaître, au tournant du sentier. Quand tu retrouveras au loin les gens qui t'aiment, offre-leur de ma part des paroles de paix.
Thank you. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Radio Libertaire, la voix sans Dieu, ni maître de la Fédération Anarchiste, troisième lundi du mois. On commence avec 5 minutes de retard, excusez-nous. C'est la société dans tous ses états avec Mohamed au micro, Lulu à la technique. Bonjour Lulu.
Salut.
Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui au micro de notre antenne Georges Valadas. Bonjour Georges.
Bonjour.
Et José Vieira. Bonjour José.
Bonjour.
Georges Valadas, écrivain, et José Vieira, réalisateur de documentaires. Le 20 janvier dernier, notre ami Américo Nunes est décédé subitement, nous laissant tous... Sans voix et très, très attristé. Américo Nunes, historien, né un 19 février 1939, il aurait eu 85 ans aujourd'hui. Je l'avais accueilli dans cette émission, dans notre studio, en novembre 2019, et il nous avait parlé avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'intérêt partagé, de joie communicative de Ricardo Flores Magón. Lulu, si tu veux bien mettre l'extrait, s'il te plaît.
Il a même refusé de recevoir de l'argent de la nouvelle république issue de la Révolution, en disant que cet argent, s'il venait directement de la part des ouvriers, c'est avec joie que j'acceptais, mais venant de la part d'un gouvernement, quel qu'il soit, je refuse. Donc, il a dit, même dans une lettre, je sais que dans ma tête, il y a mes rêves.
Oui.
Et je rêve d'une humanité sans gens pas qui disent j'ai faim, sans son pas des chaînes des prisons, pas, sans peine de mort, pas, où la femme serait libre et égale à l'homme. C'est effectivement c'est un personnage tellement attachant que moi, pas, souvent en lisant ses lettres, tout ça, parce que les larmes me venaient aux yeux.
Oui. Oui, il y a
j'étais tellement ému parce que le personnage, il est beau.
Oui.
Il y a une beauté et une poésie de ce personnage. Poésie du vécu.
Oui.
Ce n'est pas une poésie écrite. Sa vie était un poème. Est un poème épique, extraordinaire.
C'était la voix d'Américo dans notre émission de novembre 2019. Sa vie est un poème. Il parlait de Ricardo Flores Magón, mais il parlait aussi de lui. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir d'accueillir Georges Valadas et José Vieira autour de questions de mémoire. Ça rejoint un petit peu aussi le travail d'Américo. Américo qui était né au Mozambique de parents portugais. Et nos deux invités aujourd'hui ont des liens forts avec le Portugal. Et nous allons évoquer avec Georges et José la mémoire d'une certaine mémoire d'un certain Portugal. Et José, donc j'ai eu la chance de voir deux documentaires que tu as réalisés. Le premier s'appelle Territorios Ocupados. Et le deuxième s'appelle « Le pain que le diable a pétri ». Le premier de ces documentaires, « Territorios Ocupados », a trait à une histoire un peu particulière, dont je n'avais jamais entendu parler, mais je pense qu'elle est peu connue au-delà du Portugal. C'est l'histoire de l'expropriation des terres communes de villages du centre du Portugal. Peux-tu nous en dire quelques mots de présentation?
Alors, on peut dire territoires occupés en français.
Oui,
hein. Voilà.
Mais territoires occupés, aujourd'hui, ça renvoie à une certaine actualité moyen-orientale.
C'est une histoire qui n'est pas très connue au Portugal non plus.
Hein. Oui.
C'est quelque chose qui a disparu un peu de la mémoire collective. Les gens qui l'ont vécu sont pratiquement tous disparus. Donc c'est l'histoire de terres communautaires dans la partie nord du Portugal, dont l'État décide d'occuper, que l'État décide d'occuper dans les années 30. Fin des années 30, il y a à peu près 500 000 hectares, ce qui est énorme,
hein, oui.
Que l'État décide d'occuper et de mettre en forêt, c'est-à-dire de planter des arbres. Et c'était des terres communes des villageois. Ces terres communes des villageois leur servaient dans leur quotidien, surtout pour les plus pauvres. Et donc, elles vont occuper et provoquer des fortes émigrations. et aussi énormément de résistance de la part des paysans, des petits paysans. Voilà. Bon, c'est une histoire extrêmement longue, c'est difficile. Voilà. Simplement, ce qui est important de dire, c'est que c'est des terres communautaires, c'est-à-dire que c'est des terres que les villageois ont en partage et que ce n'est pas des copropriétaires. C'est-à-dire que on est copartageant de ces terres à partir du moment où on habite le village. Et on peut y aller chercher de la litière pour les animaux, mettre les animaux en pâture, aller chercher du bois. On peut pas les cultiver, quoi. C'est des terres incultes où tout le monde peut aller, quoi.
Le terme pour les désigner en portugais, c'est baldios, hein,
c'est ça? Baldios, oui. Ah. Il veut dire en même temps en portugais terre inculte et en même temps terre communautaire.
Et c'est une tradition très ancienne, c'est ça, ça on connaît un peu l'histoire de ces terres, ou alors est-ce que ça se perd comme... Ah, un des personnages que tu filmes et qu'on retrouve après dans l'autre film dit ça existe depuis toujours.
Oui, c'est ça, c'est l'idée que c'est qu'on imagine qu'il y a 2-3 000 ans, ces villages existaient là-haut dans la montagne, puisqu'il y a des traces
d'occupation
préhistorique, évidemment, et que ces territoires appartenaient à tout le monde. Et comme c'est resté en dehors de tout, c'est-à-dire qu'ils ont quand même la première route en 1947, donc ils sont loin de tout, donc ça a continué comme ça pendant des siècles, et que ça n'a pas attiré, j'y dirais, les accapareurs, quoi. Parce qu'on est loin un peu de tout, et qu'il n'y a pas de route pour y aller, que c'est pas mal desservi. Donc, on va s'intéresser beaucoup plus tard à ça. Et c'est l'État qui va s'y intéresser, d'ailleurs.
Et il faut bien préciser que c'est l'État, un État bien particulier. C'est pas...
Oui,
c'est l'État saint-lazariste.
C'est l'État saint-lazariste, mais qui va, dans les années 30, faire une loi pour occuper et spolier les paysans. Mais c'est quelque chose qui intéresse l'État depuis très longtemps.
Oui.
C'est quelque chose que depuis des siècles, qui dure depuis des siècles, cette bataille entre les gens qui veulent accaparer les terres, les puissants, et puis les paysans qui veulent garder leurs terres communautaires. Donc, dès 1820, il y a une attaque en règle énorme contre les baldises, les terres communautaires. Enfin, je veux dire, ça dure très très longtemps. Et c'est vraiment l'État fasciste, parce que là, en 1938, on est vraiment... C'est l'État fasciste, quoi. La Constitution de 1933 fait ce qu'on appelle l'État nouveau, quoi. Constitue l'État nouveau, donc on est vraiment...
C'est l'instauration de la dictature par Salazar.
C'est vraiment une dictature, voilà, juste avant-guerre. Et donc, ils vont vraiment s'installer dans les montagnes et essayer de les, entre guillemets, de les civiliser, quoi. Ouais. De les domestiquer, quoi.
Domestiquer la population, ouais. C'est ça. Ces terres communautaires ne sont pas propres à cette région du Portugal. C'est-à-dire que dans d'autres régions du Portugal, il existe aussi, ou il existait aussi, ce genre de propriété collective ou de partage collectif des terres agricoles.
Oui, c'est quelque chose qui existe au Portugal, en Espagne aussi. Hein, oui. C'est des terres qui appartiennent aux villageois. Mmh. Encore une fois, elles n'appartiennent pas aux communes, ce n'est pas des terres communales.
Oui, il faut bien distinguer.
Voilà.
Oui.
On n'est pas propriétaire ou copropriétaire, on est copartageant.
C'est ça.
Donc ça, c'est extrêmement important. Avec une assemblée, les gens élisent une assemblée, enfin une assemblée qui élit des représentants pendant plusieurs années, etc. Je veux dire, c'est vraiment la base de la démocratique, quoi. Je veux dire. Donc ça, c'est évidemment, l'État va s'attaquer à ça aussi pour ces raisons-là, quoi.
Ça a des échos jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on réfléchit à nouveau aujourd'hui à ce qu'on appelle les communs. Donc c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, et pas uniquement au Portugal, pas uniquement en Espagne. On trouve des traces des communs un peu partout en Europe, mais aussi sur d'autres continents. L'intérêt de ton documentaire, c'est d'abord de montrer une histoire particulière, comment elle s'est mise en place, et aussi qu'est-ce qu'il en est resté dans les mémoires, parce que tu vas interviewer, ton film date des années 2010, je crois.
2018.
Il est plus récent, c'est l'autre qui est un peu plus ancien, 2018. Et donc, il reste des traces dans la mémoire collective. Tu retrouves des témoins, des gens qui racontent comment ils se sont retrouvés spoliés, d'une certaine manière, et comment leur situation économique, leur situation sociale a été fortement dégradée par le vol de ces terres par l'État, finalement.
Oui, parce que on est dans des villages où il y a des gens qui ont des terres, qui ont peu de terres, et puis il y a des gens qui ont très peu de terres. Et les gens qui ont très peu de terres, si on leur enlève l'endroit où ils vont chercher la litière pour les animaux, où ils vont faire paître les troupeaux, où ils vont chercher leur bois. Par exemple, la litière, c'est très important pour les étables, parce que la litière, ça fait quoi? Ça fait l'engrais pour les champs. Donc, quand on n'a plus d'engrais pour les champs, et quand on a des terres, par exemple, si on est en... Si on a quelques terres et qu'on ne peut pas mettre de l'engrais, il n'y a pas de production. Ouais. Et donc, les gens, ce qui va arriver assez rapidement dans les années 40, c'est que les plus pauvres vont être obligés de partir. Ouais. Il va y avoir un exode rural après coup. Hein, dans les années 50, il va y avoir un fort exode rural. Mais là, ce qui va se passer, c'est que ça va être déclenché très rapidement parce qu'on le sent dans les journaux, même dans les petits journaux locaux, on sent vraiment la chose qui monte, c'est-à-dire des gens, des métayers. Donc des gens qui n'ont pas de terre, mais qui cultivent des terres, qui n'ont plus d'engrais pour leurs terres et qui sont obligés de les laisser de partir, quoi. Ouais. Et donc ça va provoquer dans la région, parce que l'État va faire une espèce d'enquête d'utilité publique, on pourrait appeler des enquêtes, en demandant comment les gens voient les choses. Mais en fait, ils prennent là, par exemple, là où j'ai travaillé, où j'ai fait le film, il reste encore quelques témoins de cette histoire-là. Les gens se sont retrouvés pratiquement avec rien, quoi. Ouais. Donc, les gens qui avaient des terres ont pu tenir le choc, certains, mais la plupart ont été obligés de partir, quoi.
Et donc, ça va avoir des conséquences sociales terribles. Ça va conduire à la désertification, d'une certaine manière, de ces régions.
Ça va conduire à la désertification de ces régions. Donc, plus personne pour s'occuper d'une forêt qu'on a semée. Ouais. Et donc, avec des feux qui passent, voilà. Et bon, et après, évidemment, il y a eu aussi, après, la grande émigration vers Lisbonne, vers l'étranger, vers le nord de l'Europe, etc. Enfin, tout ça, mais les villages sont... Il n'y a plus de villages, quoi. Ouais. Ils disparaissent. Donc, on se retrouve là, on se retrouve avec une forêt de résineux. Ouais. Et ça brûle très bien, ça. Ouais. Et voilà, et on s'est retrouvé. Et là, on pourrait rebondir sur le livre de Georges, La mémoire et le feu. Bien sûr. Ou Le feu et la mémoire, je ne sais plus dans quel sens c'est.
La mémoire.
Voilà. Tout à l'heure, avant qu'on prenne l'antenne, Georges, tu nous parlais aussi de terres communes, mais cette fois dans une autre région du Portugal. Ça se passe dans le sud du Portugal, hein, c'est bien ça. Et là aussi, il y a une histoire sociale très très forte. Hein.
Oui, enfin, il y a beaucoup à dire. José a résumé bien le cadre de cette problématique. Bon, d'abord, l'histoire des communs, c'est l'histoire du capitalisme. Hein. Marx a écrit là-dessus, à propos de l'Irlande, c'était nécessaire. La destruction des communs, c'est la création de la classe ouvrière, en fait.
Et puis l'accumulation primitive.
Voilà, exactement. Donc, au Portugal, c'était comme dans d'autres sociétés, les communs étaient très importants. Ce qui est particulier peut-être dans l'histoire du Portugal, c'est qu'il n'y a pas eu de féodalité au Portugal. Oh, très peu. Et, c'est-à-dire que l'aristocratie a été très très forte pour des raisons qui ont à voir avec l'histoire du pays et sa formation dans toute sa période de conquête contre l'islam. Et donc il n'y a eu quasiment pas de féodalité. Donc beaucoup de ces terres étaient plus ou moins sur le contrôle du roi. C'était le roi qui maintenait un semblant de normalisation de ces terres communes, quoi. À la fin du... Bon, je ne veux pas répéter ce que José a déjà dit, mais c'est pas que le fascisme qui s'est attaqué aux terres communes. Parce que dès le milieu du 19e siècle, avec le début du petit capitalisme portugais, il y a eu un mouvement d'accaparement des terres communes qui a été lié à la fois aux affrontements des guerres entre les libéraux et les absolutistes. C'est quand même, il y a une guerre civile qui a duré presque un demi-siècle au Portugal. C'est quand même un pays qui a été traversé par des catastrophes sans fin jusqu'à l'intégration européenne étant la dernière. Et donc, dans cette guerre civile, les libéraux représentaient le parti de ceux qui voulaient s'accaparer les terres communes. Ouais. Et ça explique aussi, c'est à la période aussi du banditisme social, j'ai fait un petit article pour cette excellente revue qui s'appelle Brasero, numéro 2, j'avais fait un petit article sur le banditisme social au Portugal. Les bandits sociaux au Portugal ont été très liés il y a eu un mouvement de banditisme social et ils ont été très liés à la révolte contre cette appropriation des terres communes, parce que les paysans voyaient et avec des côtés ambigus, parce que finalement les paysans étaient souvent voyaient dans l'absolutisme, les seigneurs liés au pouvoir absolutiste, une protection plus grande qu'avec les libéraux. Oui. Donc ce qui a permis de façon rapide de les présenter comme des réactionnaires. Non, simplement, ils voulaient garder ces terres communes dont parlait José. Et donc, ça a commencé là, déjà. Et après, c'est là que je reviens à ce qu'on disait avant. Quand il y a eu, à la fin du 19e siècle, dans le sud du Portugal, mais je pense aussi dans le nord, mais je connais assez mal ça, je connais un peu, mais je ne suis pas un spécialiste de cette question, dans le sud du Portugal, il y a eu des tentatives de récupérer des terres communes par les travailleurs ruraux qui vivaient dans des conditions de pauvreté extrêmes. Hein. Après ce grand mouvement de libéral de l'accaparement des terres. Et la répression a été évidemment très, très violente, très sauvage. Et ils ont été mis en dehors de ces terres qu'ils avaient essayé d'occuper. Et après, tout de suite après, c'était une période très, très troublée d'une grande agitation sociale dans ce petit pays du sud de l'Europe. Il y a eu l'implantation de la République. La monarchie a été c'est terminé avec l'exécution du roi et du prince héritier. Activité salutaire dans laquelle les anarchistes ont eu un rôle très important parce que c'est eux qui ont liquidé le roi et son fils. Et ça, à la suite de quoi? Pas tout à fait de façon immédiate, mais assez proche, il y a eu l'implantation de la République avec une participation très grande du mouvement anarchiste qui était très fort à l'époque. C'était le seul mouvement social organisé avec une idéologie cohérente à l'époque. Et juste après l'implantation de la République, le mouvement social est redémarré parce que les républicains qui ont pris le pouvoir et qui ont pris l'État central étaient finalement aussi des gens qui voulaient protéger la structure rurale et la propriété foncière. Et donc, il y a eu de nouveau des occupations des anciennes terres communes. Avec de nouveau, il y a eu une grève très importante en 1912, qui a été un moment très important dans l'histoire du mouvement ouvrier organisé au Portugal, parce que c'est le début du mouvement syndical de matrice plutôt syndicaliste révolutionnaire et anarcho-communiste à l'époque. Et cette grève de 1912 dans la région d'Évora, c'est disons la région de la grande propriété agricole au sud de Lisbonne déjà, là, il y a eu de nouveau des tentatives d'occuper de nouveau ces anciennes terres communales. Presque 40 ans après les premières tentatives d'occupation. Et ce qui est très intéressant, quand on fouille un peu tout ça et on essaie de mettre tout ça dans une filiation cohérente, c'est que c'est cette tentative de reprendre les terres qui est aussi à l'origine des occupations de propriété après la révolution du 25 avril. C'est-à-dire qu'il y a toute une filiation qui vient du milieu du 19e siècle jusqu'à la révolution portugaise. Et tout ce mouvement très contestataire, très subversif, très émancipateur d'occupation des terres dans le sud du Portugal, il commence avec les premières révoltes contre l'appropriation des terres communes dans le dernier quart du 19e siècle. Bon, j'en ai déjà trop parlé, oui, mais c'est pour dire que tout ça a une suite très, très logique, si tu veux, que, comme disait José très justement, est quasiment disparue dans la mémoire. Alors, mémoire officielle, n'en parlons pas, parce que c'est un désastre. De toute façon, ils n'ont pas de mémoire, c'est juste l'immédiat, le côté immédiat du profit. Mais même dans la mémoire sociale, c'est très très limité, même s'il y a des gens qui travaillent là-dessus aujourd'hui.
C'est important, en fait, de bien préciser tout ce que tu viens de dire, Georges, et je te remercie parce que ça nous permet de mieux comprendre les évolutions sociales et ce que tu expliques dans ton livre, donc la mémoire et le feu, comment on en est arrivé à des situations telles que des incendies de forêt qui ravagent tous les étés le Portugal, comment on est arrivé à une... Tu dis à un moment donné dans ton livre que le Portugal est un pays qui est en train de glisser vers la mer. Enfin, tu cites un sociologue, je crois, ou un architecte, je ne sais plus très bien. Mais en gros, la désertification de l'intérieur du pays, qui est liée d'une part aux vagues d'émigration successives, et puis aux concentrations urbaines, avec donc, comme tu le disais, José, des villages qui disparaissent, hein, où les paysans, n'ayant plus les possibilités de vivre sur place, sont obligés de partir, soit dans les centres urbains vers les centres industriels, soit à l'étranger. Et donc, on s'aperçoit que ces mouvements sont durs sur la longue période et qu'à chaque fois, ils entraînent des réactions sociales très fortes, hein, comme tu viens de l'écrire. Et ça, c'est quelque chose qu'on perçoit pas aujourd'hui, parce que tu le dis très bien dans ton livre, il y a une espèce d'apathie aujourd'hui qui règne, une apathie sociale avec des il y a quelques mouvements, mais qui ne permettent pas de mobiliser un trop grand nombre de populations. Et en même temps, il y a cet effacement peu à peu de cette mémoire. Et en ce sens, tes films, en tout cas celui que tu as réalisé sur les Baldios, et puis l'autre film dont on parlera un peu plus avant dans l'émission, le pain que le diable a pétri, ces films, ils montrent bien qu'il y a quand même dans la population portugaise, dans la population de ces paysans, une forme de résistance qui est liée à la fois à une forme de relation sociale liée à la terre, à l'occupation des communs, mais aussi une forme de, je dirais presque, de fierté sociale. Est-ce qu'on peut utiliser ce mot ?
Oui, oui, oui. Bah, pour cette génération-là qui a vécu ces événements, oui. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est brisé là dans le passé. On peut dire que moi, je me souviens dans le village de jeunes beaucoup de gens sont partis dans la région de Lisbonne. Ils viennent évidemment, comme tous les immigrés de partout, ils reviennent au village. En été, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant : « J'ai vu le film que vous avez fait. Merci », parce que les gens ne savent pas. Ils ne connaissent, c'est des gens du village. Ils ne connaissent pas cette histoire. Et c'est pour ça qu'un des personnages du film me disait tout le temps, ils ont la mémoire courte. C'est des gens qui ont la mémoire courte. Ils sont capables de se vendre pour aller gagner le sou. Et donc, c'est important ça, parce que finalement, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire qu'il a vécu dans une société de mémoire, où on transmettait les choses, où les gens se souvenaient d'insurrections dans la montagne, où on attaquait, je veux dire, on n'avait pas peur. Enfin, on n'avait pas peur, si, on avait peur, mais on attaquait. On s'affrontait avec la troupe. On s'affrontait avec les gardes forestiers dans la montagne. Je veux dire, et ça a totalement, je veux dire, c'est quelque chose qui a disparu, quoi. Parce que ces gens-là, il y avait une mémoire qui se transmettait. Cette mémoire, elle ne se transmet plus à cause de l'atomisation complète de ces villages qui n'existent plus, quoi. C'est un peu la même idée. Je dirais que ces villages, cette terre-là, il y a 50 ans, elle était chantée. Les gens, ils avaient des chants qui accompagnaient pas seulement le travail, qui accompagnaient aussi leur révolte, leur vie, etc. Ça a disparu. De la même manière, ces chants, même si j'ai réussi à en récupérer quelques-uns que des gens gardent en mémoire, mais ça, c'est quelque chose qui disparaît complètement, quoi.
Eh bien, on va écouter un de ces chants sur le CD que nous a amené notre ami Georges. Lulu, s'il te plaît.
Maldita sociedade, estás tão mal organizada. Quem não trabalha tem tudo, quem trabalha não tem nada. Camponês alentejano, camponês agricultor, tu trabalha homem que trabalha não deve nada a ninguém. Aquele que nada faz deve tudo quanto tem. Camponês alentejano,
camponês agricultor, tu trabalhas todo o ano, dás-te dor ao lavrador.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix son Unimed de la Fédération anarchiste 89.4, à l'écoute de la société dans tous ses états. Aujourd'hui, avec Georges Valadas et José Vieira, nous revenons sur la mémoire des mouvements sociaux au Portugal. Nous venons d'entendre un chant du Portugal, du sud du Portugal. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Georges, s'il te plaît?
Oui, alors c'est un chant. De la région de Castro Verde, qui est un peu au sud, bien, enfin, au milieu de la grande région de l'Alentejo, dans le sud, vers la côte, enfin, pratiquement dans le centre. Et il est chanté par un groupe un choral d'un petit bourg qui s'appelle Castro Verde. Et bon, je vais pas tout traduire, mais enfin, je vous traduis rapidement le début. Société maudite, tu es si mal organisée. Celui qui ne travaille pas possède tout, celui qui travaille ne possède rien. Et puis c'est un peu dans ce ton jusqu'à la fin, c'est un cri de révolte contre les puissants, ceux qui possèdent le pouvoir et les biens et la propriété dans ces régions. Voilà.
Tu nous as parlé un instant, là, avant la pause musicale, du mouvement anarchiste, du mouvement social au Portugal, et en particulier du mouvement anarchiste et anarcho-syndicaliste. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots en plus pour essayer de nous... Parce que c'est quelque chose dont on n'a absolument pas connaissance ici. On connaît un petit peu, on connaît bien sûr le mouvement anarchiste espagnol, hein, à travers l'histoire, bien entendu. On connaît le mouvement anarchiste italien. Je t'avoue que jusqu'à ce que je lise ton livre, je n'avais pratiquement aucune information sur le mouvement anarchiste au Portugal. Et j'étais très surpris, et agréablement surpris, d'en apprendre l'importance qu'il a eue, déterminante, hein, dans les luttes sociales au début du XXe siècle.
Bon, déjà sur la bibliographie, il commence quand même à avoir un tout petit peu de texte. Bon, il faut les chercher. Je pense qu'il est toujours disponible. Il y a un texte sur l'histoire du mouvement anarchiste portugais qui a été fait par João Freire, qui a été un chercheur historien portugais, qui a été exilé ici aussi jusqu'à la révolution du 25 avril. Et qui a été publié par les éditions de la CNT. Je ne sais pas s'il est toujours disponible. Bon, c'est un travail universitaire assez complet. Bon, sinon après, bon, il y a plusieurs textes qui ont circulé dans le milieu, disons, libertaire. Moi, j'en ai écrit quelques-uns, d'autres ont écrit aussi. Bon, il commence à avoir, si on veut vraiment s'y intéresser, on peut trouver des textes. Bon, le mouvement anarchiste portugais, en fait, il a eu une grande force, mais aussi une grande faiblesse. La grande faiblesse, c'est qu'il a eu très peu de temps pour pouvoir vraiment mûrir et s'organiser, parce que la société portugaise, en fait, le mouvement anarchiste a commencé véritablement à s'organiser à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Le grand mouvement de formation, d'organisation syndicale et associative
c'est fin du 19e, début du 20e siècle, surtout à Porto, Lisbonne, et dans la région dont on parlait auparavant, des travailleurs agricoles du Sud. Mais très vite, à partir de 1917, d'abord la répression républicaine a été très très forte, c'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, la République a été instaurée en 1910. C'est un des premiers pays républicains en Europe, le Portugal quand même, mais avec l'aide des anarchistes, sans quoi la République n'aurait pas été instaurée à ce moment-là. Mais très rapidement, la bourgeoisie républicaine a commencé à réprimer les mouvements sociaux qui voulaient aller au-delà d'une un simple changement politique, comme c'est souvent le cas, et ça a été aussi le cas au 25 avril. Ouais. Bon. Ils voulaient en fait une sorte de république sociale, si tu veux. Bon, et donc là, la répression a tout de suite été très très dure, et en 1917, il y a eu le premier coup d'état militaire d'un homme qui s'appelait Sidonio Paes, qui était un militaire. En fait, on donne toujours comme référence le début du fascisme portugais en 1926 avec l'intervention, le coup d'état militaire qui a mis fin à la Première République. Mais 10 ans avant, il y avait déjà eu un premier coup d'état militaire d'une sorte de militaire populiste qui a essayé d'instaurer un système plus rigide, plus répressif dans la société. Donc, en fait, le mouvement anarchiste portugais, il a eu un quart de siècle pour s'organiser. Et ensuite, il a tout de suite été confronté à une répression énorme, sauvage, très violente, sans limite, quoi. Donc ça a donné vraiment ça lui a donné une faiblesse évidente, quoi. C'est-à-dire que quand il y a eu la révolution espagnole de 1936, ça faisait déjà presque 20 ans que les anarchistes portugais étaient dans une situation de d'oppression policière et des militaires, quoi. Donc c'était vraiment très difficile pour eux, mais c'est quand même un mouvement qui a beaucoup marqué d'abord le début du mouvement social et mouvement syndical et politique, puisque même le Parti communiste portugais, qui a été créé en 1921, est issu d'une tendance du mouvement syndicaliste révolutionnaire, qui à l'époque était très séduit par la révolution bolchevique. Et donc, déjà, le Parti communiste a été très très marqué par les idées de l'anarchisme. Ça a pris un peu de temps avant qu'il puisse faire vraiment le ménage à l'intérieur du parti, et les idées sont restées quand même, les idées d'action directe ont resté très très fortes au sein du Parti communiste portugais, même pendant le salazarisme, et jusqu'au 25 avril, et même après. Le mouvement anarchiste a marqué aussi beaucoup la littérature, il y a eu deux grands écrivains du XXe siècle, Aquiline Ribeiro en particulier, qui s'est toujours considéré très marqué par l'anarchisme, et aussi même avant, quoi, la génération de la fin du XIXe siècle, un écrivain comme Eça de Queiroz, qui est un des grands noms de la littérature portugaise, il a traduit beaucoup de textes, je crois même qu'il a traduit Bakounine en portugais, et il a été un des fondateurs de la section portugaise de l'Internationale, de la Première Internationale. Donc c'est un mouvement qui a beaucoup marqué la société portugaise, et qui après s'est dissous un peu dans les années grises du fascisme salazariste portugais, quoi. Le Parti communiste, parce qu'il avait une structure beaucoup plus rigide, une structure verticale a pu passer facilement à la clandestinité, et il s'est renforcé dans cette clandestinité pendant toutes ces années-là jusqu'au 25 avril. L'anarchisme portugais a été laminé, quoi. Oui. Bon, il est resté quelques individus, il n'a vraiment réapparu qu'après le 25 avril. Et puis aujourd'hui, il y a quand même, depuis le 25 avril, il y a une nouvelle génération qui a fait revivre les idées libertaires au Portugal. Bon, c'est comme faut pas être optimiste, c'est quand même très confidentiel, très limité, mais il y a une vitalité quand même. S'il y a quelque chose où il y a une vitalité aujourd'hui au Portugal, c'est dans ces milieux de la jeunesse libertaire aujourd'hui.
Tu parles vers la fin de ton livre justement de milieux associatifs. En fait, qui sont revivifiés aujourd'hui, mais qui existaient déjà, curieusement d'ailleurs, du temps du salazarisme. Tu cites, je crois, un lieu à Porto ou à Benfica. En fait, c'est des associations qui se créent autour du football ou autour de, et qui sont des associations d'éducation populaire en quelque sorte, hein, qui ont perduré malgré le salazarisme et qui retrouvent aujourd'hui une nouvelle jeunesse en quelque sorte, avec un regain d'intérêt pour la vie associative, parce que on va y revenir, hein, mais dans ton livre tu décris vraiment ce Portugal qui est peu à peu plongé dans l'apathie sociale. Et après le 25 avril, là encore, on reviendra sur cette date importante. Juste en un mot, dans ton introduction, tu parles d'un auteur, alors je ne sais pas si je prononce bien, Angelo Jorge, l'auteur d'un texte utopique, Irmania, je crois. Irmania.
Irmania. Voilà.
Et tu dis, il n'y a pas eu beaucoup de production d'utopistes au Portugal. Et là, je fais un clin d'œil à notre ami Américo Nunes, qui justement, lui, était très, très intéressé par cette question de l'utopie. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur cette...
C'est difficile à résumer tout ça, puis oui. Je ne vais pas squatter là.
Non, mais juste en quelques...
Si tu veux, Irmania, c'est un texte assez unique dans la littérature sociale et utopique portugaise, parce que ça a été vraiment un des seuls textes qui a eu une existence réelle. C'est une sorte d'utopie d'une société, une société imaginée par un Jorge Jorge, qui était quelqu'un qui venait du milieu anarchiste. Mais en même temps, l'idée de l'utopie, elle était présente dans le mouvement social, puisque c'est de ça qu'on parlait avant, avec les histoires de l'expropriation des terres communes, etc. Il y avait l'idée qu'on pouvait vivre différemment, que c'était pas que les puissants qui pouvaient vivre, que le peuple avait droit à vivre et qu'il avait une idée de la vie qui était différente. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est resté assez fort au Portugal et qui a été très importante dans ce mouvement associatif dont tu parlais. Le mouvement anarchiste a toujours donné une importance très grande aux associations, aussi bien les associations littéraires, associations d'entraide, les associations sportives. Et ça a pu survivre pendant le salazarisme et toutes les années vraiment de la chape de plomb fasciste. Alors, là, je voulais faire un saut à ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui est quand même terrible, c'est que c'est avec la démocratie que tout ce mouvement associativiste a été détruit. La démocratie représentative, je veux bien dire, parce que je pense que quand même que le mot démocratie est un mot qui est appelé à s'étendre au-delà du système représentatif, qui n'est plus du tout une démocratie à mes yeux, et pas qu'à, oui, pas bien sûr, pour moi. Mais je pense qu'on partage cette idée ici. Bon, mais aujourd'hui, avec la destruction capitaliste de la société portugaise, la transformation du pays dans une sorte d'industrie essentiellement de tourisme de masse, quoi, et du tourisme de plus en plus un tourisme de riches, parce que le tourisme de masse, je pense qu'il est derrière nous maintenant, mais une société de tourisme de riches, je donne un exemple, par exemple, la question du logement. Je parlais de ça avec des amis de Lisbonne il y a pas longtemps, quand j'y étais le mois dernier. Actuellement, à Lisbonne, c'est quasiment impossible de se loger. Parce que la moitié, enfin, j'exagère, parce que bon, comme on est des gens du Sud, on peut exagérer, c'est connu. Mais une grande partie de la ville est inaccessible pour les gens. On ne peut plus se loger. Tout est Airbnb, location touristique, etc. Il y a une partie de la ville qui a été expropriée aussi, comme les communs. Ouais. C'est-à-dire que les gens de Lisbonne n'ont plus accès aux tâches, qui étaient quand même... Un regard essentiel pour quelqu'un qui est né à Lisbonne, comme c'est mon cas.
Le Tage, le fleuve, le
grand fleuve, ouais. C'était vraiment que le regard sur le Tage, c'était, ça faisait partie du quotidien. Ouais. Bon, aujourd'hui, les gens n'ont plus accès au Tage. Tous les quartiers sur le Tage sont réservés au tourisme. Et les gens ont été poussés vers l'intérieur. Donc, on vit à l'intérieur avec le souvenir du Tage. Alors, de temps en temps, on va dans le quartier touristique pour regarder le Tage. Mais c'est quand même un sentiment très, très agaçant, pour dire le moins. Et où est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que non seulement les gens ne peuvent pas se loger, mais il y a eu beaucoup d'associations qui ont été expulsées parce qu'ils ne peuvent plus payer les locaux dans lesquels ils étaient depuis le milieu du XXe siècle, par exemple. Tu vois, des associations culturelles, des associations sportives, des associations du Fado, par exemple, toutes sortes d'associations. Ouais. Donc, j'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un qui fait actuellement un voyage parcours pour des touristes avec sensibilité sociale, où elle fait visiter dans la ville tous les endroits où il y avait des associations qui ont été expulsées pour créer des lieux Airbnb, des hôtels de luxe, etc. Donc, tu vois, c'est quand même extraordinaire que c'est le système actuel de l'argent, enfin le système capitaliste, et avec sa violence d'expropriation des lieux qui détruit cet aspect qui était très très fort de l'associativisme qui avait été marqué par les idées libertaires.
Au début de ton... Merci Georges pour ces éclairages, on reviendra encore sur ces questions, mais au début de ton film, José, le pain que le diable a pétri, tu nous montres un personnage qui va servir un petit peu de fil conducteur tout au film et qu'on a déjà vu dans le film Territoire occupé. C'est un monsieur d'un certain âge déjà, il est sur une route. Il nous raconte qu'il a participé à la construction de cette première route qui est venue desservir le village.
Non, elle n'a pas été faite pour desservir le village. Elle a été faite pour la forêt.
Oui, bien sûr. Oui,
le village, on s'en foutait complètement.
Oui,
non, c'est important.
Oui, tu viens de préciser.
Ces routes-là ont été faites pour la forêt, ils n'auraient pas vu. Maintenant, ils auraient sans doute des routes. Oui. Mais à l'époque, ils n'auraient pas eu en 47 ans.
Comment on fait aujourd'hui des routes pour les éoliennes?
Oui,
sur la montagne d'Algarve, on a fait tout un réseau de routes pour construire et alimenter les éoliennes.
Absolument, là, c'est le cas là-bas aussi. Voilà.
Et donc ce personnage, on peut le dire que c'est un personnage, parce qu'il a vraiment une stature, et puis un discours, et une façon de parler qui est assez, vraiment très, très, très étonnante et très belle. Et il nous dit, ça nous revoit un petit peu à ce que tu disais juste avant la pause musicale, il chante, alors il est dans la campagne, il n'y a rien autour, il y a un silence, et il chante, il envoie à haute voix une mélopée, et il explique que il y a plusieurs années de cela, le temps où il devait être jeune, lorsqu'il chantait comme ça dans la montagne, il y avait 1, 2, 3, 4 chanteurs qui lui répondaient. Et aujourd'hui, c'est le silence.
Total, oui.
C'est très fort, ça.
C'est le silence absolument total, oui. Ouais.
Et c'est très représentatif, j'ai trouvé cette introduction à ton film tout à fait représentatif de l'état actuel de la société. C'est une image très forte, hein, cette perte justement de...
Le son.
Ouais.
Mais c'est bon, évidemment pour lui, quand il parle, il a 80 quelques années. Donc j'imagine qu'il doit se remémorer ses 20 ans et que c'était gai. Bon. c'était pas un monde idéal du tout.
Ah, c'était la misère, hein, oui, les gens étaient pauvres.
Non, mais je veux dire, en même temps, mais les gens étaient gays, ils vivaient ensemble, quoi. Il y avait quelque chose qui se passait ensemble. Et alors, moi, j'ai commencé à tourner en 2010, à cet endroit, dans cette... J'ai commencé en 2002, mais enfin, j'ai commencé vraiment à m'attaquer au sujet, on va dire, en 2010. Et donc, j'ai tourné avec des gens qui avaient 70, 80 ans, qui, en ces 10 années, la plupart ont disparu. Et il y a quelques années, je suis allé faire uniquement du son dans la montagne. Et je me suis aperçu d'un truc, c'était incroyable, c'est que 10 ans avant, ce n'était pas du tout les mêmes sons. Il y a 10 ans avant, j'entendais des gens qui parlent aux animaux, à droite et à gauche. Donc, on avait une espèce de... Plus, c'était une espèce de stéréophonie dans la montagne avec des gens, avec des échos, etc. Et là, dernièrement, il n'y a plus du tout le même son. Donc, même en 10 ans, là, j'ai senti le truc s'écrouler complètement. Alors, j'imagine que pour lui, ça devait être terrifiant de vivre dans ces endroits-là qu'on a connus vivants.
Ouais.
Qu'on a connus vivants,
ouais. Oui, il explique, il montre du doigt, il monte les montagnes, tout le monde dansait, c'est ce que, c'est un monsieur donc, qui a toujours refusé le travail salarié, il a des mots très durs.
Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que finalement, dans ces montagnes-là, on trouve des gens qui refusent complètement le salariat, c'est-à-dire, alors... il faut pouvoir le refuser aussi, le salariat.
Oui, oui.
C'est-à-dire que les plus pauvres, ils n'avaient pas trop le choix que de partir, puisqu'ils avaient perdu leur terrain communautaire. Mais pour les gens, comme Antonio, dont on parle à l'instant, qui est quelqu'un qui a hérité de terres, qui a des terres, c'est pas du tout quelqu'un de riche, hein, c'est quelqu'un qui a des terres, où il peut avoir ses deux vaches, entretenir ses deux vaches, où il peut élever son cochon, s'il fait que il a un certain là-bas, enfin, il a une maison en pierre de taille aussi, enfin, parce que les maisons qui sont faites un peu façon un peu troglodyte dans la montagne, quoi. Et donc il a cette possibilité. Et notamment, il y avait un copain à lui, on les voit à un moment dans le film sur les escaliers. Le copain est parti à Lisbonne travailler à l'usine et est revenu. Il n'a pas supporté l'usine. Ouais. Il n'a pas supporté d'être prolétarisé, d'être soumis à des horaires, etc. Il y a un moment extraordinaire, ces deux petits vieux qui disent que les horaires aillent se faire enculer, quoi. Voilà, vraiment, c'était... Ils le disent comme ça, ils ne le disent pas autrement. Donc, le fait que, finalement, être paysan, il y a une certaine liberté. À partir du moment où un certain nombre de terres, enfin, qu'on a des terres sur lesquelles on peut vivre... c'est une liberté qu'Antonio n'a jamais voulu
brader. Ça,
ouais. C'est clairement. Alors, il lui est arrivé, puisqu'il raconte qu'il a été sur la route travailler quelques jours, à droite et à gauche. Mais fondamentalement, il a refusé de partir pour gagner le sou. Il est sans cesse en train d'excommunier, on va dire, presque, les gens qui partent pour gagner le sou.
Ouais.
Voilà. Et ça, c'est pour lui, c'est ce qui est terrifiant, c'est ça. C'est que les gens se vendent finalement. Et, bon, ce qui est vrai, quoi. Ils vendent leur force de travail.
Il le dit
pas comme ça, lui.
Et il dit, il n'a jamais mangé le pain que le diable a pétri. Voilà. C'est ça, en fait, le titre de...
Voilà, c'est...
Manger le pain que le diable a pétri.
J'ai eu la chance, n'ai jamais mangé le pain que le diable a pétri. Je n'ai jamais été obligé d'aller dans le sud du Portugal, travailler pour une misère et crever la dalle là-bas, parce qu'il y a eu des moments où les gens de cette région-là ont dû aller dans le sud du Portugal, dans les grandes propriétés
agricoles,
pour travailler.
Oui.
Donc voilà, donc lui il a eu cette chance-là, quoi.
Oui.
Mais en même temps, dans le village, même son rapport au travail. Il me disait, par exemple, je crois que c'est dans le film, il me disait, dès qu'ils travaillent pas, ils sont angoissés. Moi, le fait de pas travailler, ça m'angoisse pas du tout. Il me disait, je veux dire, j'ai travaillé toute ma vie, mais ça m'angoisse pas de pas travailler. Donc, il a quand même, il surplombe le truc quand même. Il regarde. D'ailleurs, il est souvent en haut de sa maison, là, il regarde les gens passer, il parle avec les gens, il surplombe le village quand même. Hein. C'est quand même un personnage, comme tu disais.
Oui, vraiment, il est très attachant et sa façon de parler et de voir les choses, il n'est pas du tout politisé. Il n'a jamais été, j'imagine, encarté dans quelque parti que ce soit. J'imagine qu'il n'a jamais ouvert un livre de théorie politique ou de. Mais son discours, fondamentalement, c'est un discours qu'on pourrait revendiquer comme étant libertaire, profondément, une sorte d'anarchisme spontané ou. Primi, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, mais il attire tout de suite la sympathie. D'ailleurs, la façon dont tu le filmes, il est sympathique immédiatement. Et tu passes aussi, tu donnes la parole à beaucoup d'autres personnes hein, du village, et en particulier ces femmes qui racontent leur vie en tant qu'ouvrières dans la Lentejo, donc cette région agricole où elles vont travailler parce qu'il faut bien travailler pour permettre la survie. Et c'est très dur. Enfin, elles racontent leurs conditions d'ouvrières. Il y en a une en particulier, elle épluche ses patates et elle raconte comment ils étaient à peine payés. Enfin, il n'y avait pas de salaire. Ils recevaient un peu de farine, un peu d'haricots pour au début du mois et puis il fallait qu'ils se débrouillent avec ça. C'était des conditions absolument épouvantables. Et ça devait se passer dans les années 40, entre les années 40 et les années 60, 70, j'imagine.
C'était les années 40, 50
ouais,
plutôt.
C'est ça. Ouais. Ouais.
Parce qu'après les gens, ils ont commencé à partir plus vers le séchage de la morue, par exemple, oui. qui rapportait un peu plus, et simplement travailler dans l'industrie autour de Lisbonne,
oui.
Notamment dans l'industrie chimique.
Oui, tu parles aussi de l'industrie chimique. Voilà, il y a un témoignage d'un ouvrier.
Ils partent parce qu'à ce moment-là, ça développe beaucoup tout ce qui est engrais et tout ça au Portugal. Et c'est extrêmement important parce que d'ailleurs c'est assez étrange parce que on les prive des engrais naturels et ils vont travailler
dans les usines chimiques.
Et les paysans du coin ne peuvent pas se payer ces engrais chimiques. Donc c'est assez paradoxal ce qui va se passer. Et les gens vont partir et puis après les années. Début des années 60, la France. Quoi.
Et l'industrie chimique, qui fait des ravages en termes de santé. Tu donnes ce témoignage d'un ouvrier qui est empoisonné.
Ah oui, mais ils sont tous empoisonnés. Il n'y a aucune. Je veux dire, dans les années 40-50,
il n'y a aucune précaution. Ils sont.
Ils travaillent comme ça, avec des produits extrêmement toxiques. Non, non, il n'y a pas. Lui me disait que lui, il était malade des poumons, mais que la plupart, ils étaient morts.
Oui.
Il n'y avait pas.
Oui, à un moment donné, ils passent en revue les.
Puis en plus, c'était une entreprise que Portugal est extrêmement connue, que moi je me souviens même étant petit, c'est la Couf.
Ouais.
Donc il faisait. C'était l'empire capitaliste au Portugal. Ouais. Et donc il faisait absolument ce qu'il voulait, quoi. Le problème ne se posait pas.
Il y a un autre aspect dont on n'a pas encore parlé, qui c'est autour des guerres coloniales. À un moment donné, tu t'approches, la famille est à table, il y a le fils qui est là, et c'est un ancien militaire qui a servi en Guinée, je crois. C'est cette guerre coloniale que le Portugal a menée pendant une quinzaine d'années, qui a abouti finalement à la chute du régime de Salazar, tellement cette guerre était...
13 ans.
Voilà, 13 ans de guerre. Tu demandes à ce jeune de raconter son expérience et au début il refuse, enfin il veut pas en parler. On sent là qu'il est il y a quelque chose de l'ordre de la volonté d'oublier même s'il n'y arrive pas. Et ce qui est très frappant, c'est que petit à petit tu l'amènes quand même à témoigner.
Oui, ça a duré, le travail a duré
j'imagine,
très longtemps. Mais Georges pourra en parler beaucoup mieux que moi de cette histoire de la guerre coloniale. On en parle maintenant, mais ça a été pendant des années. Bon, mais ça a été comme la guerre de l'Algérie ici, quoi. On est dans les mêmes choses. On ne parle pas de cette guerre-là. Puis, de toute façon, les gens qui sont autour de lui, ils n'ont pas envie d'entendre parler de la guerre.
Oui, tout à fait. Sa mère, Amand, dit, pour ça, il reçoit 150 euros par an. Il a servi, je ne sais pas combien d'années, peut-être
oui,
deux ans.
Oui,
Et on lui donne 150 euros par an.
Oui, il a pris une balle en plus.
Voilà.
Il a fait la guerre en Guinée, qui était la guerre la plus... Le petit Vietnam des Portugais, quand même.
Ouais,
ça a été quand même un peu violent. Mais je pense que la société portugaise, pendant très longtemps, elle n'a pas voulu parler de ça.
Ce qui m'a frappé, c'est que quand il finit par t'en parler, il raconte un épisode où ils sont rentrés dans un village et ils ont détruit les troupeaux et les récoltes. Et c'est en fait lui-même est payé. Et ça le révolte, parce que lui, il est fils de paysan, et il va détruire On intime l'ordre d'aller détruire le fruit de travail d'autres paysans, des paysans guinéens qui sont paysans comme lui. Et ça, il le dit, on sent vraiment. Là, il y a quelque chose qui est très touchant parce que c'est. Ça le révolte vraiment, c'est ça. Il peut pas parler des gens qu'il a pu, sur lesquels il a pu tirer, qu'il a peut-être tué, etc. Mais détruire le moyen de subsistance de paysan, ça le met hors de lui. On le sent, hein, dans le.
Oui, d'ailleurs, bon, l'histoire qu'il raconte là, ils arrivent dans un village, tout le monde s'est barré, hein. Je veux dire, on imagine.
Oui.
Il le dit pas, mais on imagine que tout le monde s'est barré parce que les Portugais arrivent, quoi.
Oui.
Le colonisateur arrive, il vaut mieux se tirer. Il reste les animaux, les récoltes,
il détruit tout.
Et pour lui, c'est quelqu'un qui a réfléchi sur la question. Pour lui, c'est impensable, quoi. Ce qu'il a fait, enfin, ce qu'ils ont fait, parce que ce qu'on lui a dit de faire, c'est absolument impensable.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est la même chose que pour toutes ces guerres coloniales, enfin, pour toutes les guerres en général. À quoi bon, quoi? À quoi ça sert, quoi? Pourquoi on a fait ça, quoi? L'inutilité parfaite, les gens qui sont traumatisés, enfin, parce que c'est des gens traumatisés, la plupart, enfin, on a rencontré d'autres au village, hein. C'est quand même des jeunes cet homme-là n'est jamais sorti du village, hein. Son seul voyage de sa vie, c'est la guerre.
Ouais.
Et ça, c'est absolument terrifiant, quoi. Il n'est jamais sorti de là, uniquement pour aller à la guerre, quoi.
Tu montres aussi un peu plus loin une femme qui est en train de couper du bois, je crois. Et qui raconte aussi qu'elle n'est jamais sortie du village. Et à quoi bon? Parce que travailler ici ou travailler ailleurs, c'est quoi? Elle préfère encore rester dans son village.
Non, elle avait. C'est sa femme d'ailleurs.
Ouais.
C'est sa femme, la femme à José. Et elle n'est jamais sortie de là parce qu'elle, elle a eu finalement la chance d'avoir hérité de terre.
Oui.
Voilà, donc ce n'était pas le cas de son mari, parce que lui, c'était une famille très pauvre. De temps en temps, il y avait des mariages comme ça, entre pauvres et riches. Ouais. Ça arrivait, sur le tard. Hein.
Oui, d'ailleurs, il y a un des personnages qui lui, est issu d'une famille, on va dire, riche. Ils ont 9 vaches et 2 cochons, hein. C'est la richesse. Hein.
Ah oui.
Et il s'oppose à ses parents parce qu'il choisit une fiancée qui, elle, est pauvre. Et donc, ils sont obligés de partir s'ils veulent l'épouser. Enfin, il y a des histoires comme ça de tension.
C'est très important.
Ouais, le poids des traditions. Finalement, tu nous fais une série de portraits de personnes liées vraiment très, très fortement à cette terre qui est dure. Hein. Il y a des images où c'est du granit, c'est des broussailles avec... Ils vont couper de la bruyère, je crois, ou des genêts, enfin, il y a des ronces, ça pique.
Il y a
une image qui est terrible, il n'y a aucun commentaire, mais ils sont en train de faucher une espèce de plante avec des épines, enfin, on sent que c'est difficile, ils font des ballots, et puis derrière, on voit passer des voitures de rallye. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a une course automobile dans le coin.
Enfin, oui, ils préparent un rallye, quoi.
Voilà. Et donc, il y a une espèce de... Il y a ces deux mondes qui sont complètement opposés. Des gens qui fauchent à la faucille, quoi. On est au 21e siècle, hein, et ils sont encore à la faucille pour ramasser des herbes, certainement pour nourrir leurs animaux ou faire des litières. Et derrière, on voit passer des bolides tonitruants, enfin, C'est très fort, c'est très...
C'est l'image qu'on a par rapport à ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, on est là face à des gens qui ont encore... qui utilisent... Alors là, c'est fini. Le char celtique, qui est quand même un char pas d'amortisseur, qui a 2000 ans.
Oui.
Enfin, c'est un truc...
Oui, le char à bœuf, oui.
Le char à bœuf qui est vraiment le béaba. Il a 3000 ans, ce truc, ou 4000 ans, enfin, je veux dire. avec des outils qui sont millénaires.
Oui.
Et puis, tout d'un coup... c'est bolide qui passe, effectivement, mais c'est l'image, c'est un peu les... Bon, ils sont quand même les derniers des Mohicans dans cette histoire.
Oui, d'ailleurs, tu le dis, à un moment donné, ce village, il n'y a plus que 52 habitants, et l'un des personnages, je crois que c'est le père du soldat, qui dit, après moi, ça sera fini, quoi.
Oui.
Ce village va disparaître comme tant d'autres, il n'y aura plus personne ici, et puis ça sera fini.
Alors, moi, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura un miracle, là. Pour l'instant, malheureusement, c'est ce que disait Georges, la solution qui commence à se dessiner, c'est le tourisme, une fois de plus.
Ouais.
Des maisons pour touristes, quoi.
Ouais.
Et donc, bon, peut-être qu'il y aura un miracle, qu'il y aura une utopie quelconque qui se montrera à cet endroit-là.
Le troisième miracle de Fatima.
Voilà, c'est cela.
Lulu, s'il te plaît, on va se mettre une pause musicale.
Aí no mundo há de assistir aos pobres livres do jogo.
burguesia a surgir e depois quando existir o ideal que vem dar resplendor e bem-estar, incitar patriotismo, a miséria, o anarquismo tem por base condenar. Esfacela-se sobre a tortura quando o seu mal tinha cura. O ideal desejado quer viver materializado nas garras do servilismo. Vai alargando o abismo à fanática humanidade. Pois fia-se nesta trindade Deus, pátria e militarismo. Pois fia-se nesta trindade Deus, pátria e militarismo.
Esta música é dedicada a toda a boa gente que manda aqui neste país. Quem inventou essa treta devia de ser forreta ou agiota contra ela. Fascismo, doutrina muito eficaz, seguida pelo pai Tomás, que se encheu à conta dela. Ser fascista é ter um tacho jeitoso, é ser pelintra vaidoso, que tudo quer, tudo come. Ser fascista é ser ladrão muito honrado e trazer bem controlado o povo cheio da fome. Ser fascista é ser patrão barrigudo que não dá nada e quer tudo e só pensa no lucro à farta. Ser fascista é ser filho de pais incógnitos, a raça que causa vómitos, vão lá para o raio que os parta. Fascismo, mas que praga, mas que mal, apareceu em Portugal em 28 de maio. Fascismo, vieste de combadão por um ditador aldrabão com nariz de papagaio. Ser fascista é ser um tacho jeitoso, é ser palintra vaidoso, que tudo quer, tudo come. Ser fascista é ser ladrão muito honrado e trazer bem controlado o povo cheio da fome. Ser fascista é ser patrão barrigudo que não dá nada e quer tudo e só pensa no lucro à farta. Ser fascista é ser filho de pais incógnitos, é raça que causa vómitos, vão lá pro rei que esparta. Temos aqui a estupidez, fascismo nunca mais.
E eu quero, neste momento, agradecer a Deus pela oportunidade e mais ainda.
Ser fascista é ser patrão barrigudo que não dá nada e quer tudo e só pensa no lucro à farta. Ser fascista é ser filho de pais incógnitos, é raça que causa vómitos, vão lá para o raio que os parta.
Toujours Radio Libertaire, la voix sans limite de la Fédération anarchiste, la société dans tous ses états aujourd'hui avec Georges Valadas, La mémoire et le feu, son livre qui était paru aux éditions de l'Insomniac en 2006 déjà, et puis José Vieira pour ses deux magnifiques films, parmi d'autres hein, qu'il a fait, Territoires occupés et le pain que le diable a pétri. On vient d'écouter deux chanteurs successifs, le premier, Joao Black, un tout petit extrait que j'ai pu trouver sur sur internet d'une chanson qui s'appelle Fado Anarquista, João Black. De son vrai nom, João Salustiano Montero, était un ouvrier typographe, militant syndicaliste et anarcho-syndicaliste, qui a beaucoup milité dans le milieu dans les années 30-40, et il est mort en 1955. Et il était aussi interprète de fado, donc un fado anarchiste. Et le deuxième chanteur qui était juste ensuite, c'est Manuel João Vieira, qui est contemporain, lui, et sa chanson s'appelle Ser Fascista. Et je voyais les sourires de José et de Georges, car les paroles de cette chanson antifasciste est à la fois très juste et humoristique sur ces fascistes. Dans la mémoire et le feu, Georges, tu nous parles de la situation actuelle du Portugal. On a évoqué à plusieurs reprises au cours de cette émission un événement très important, qui est la chute, la révolution du 25 avril 1974, ça va faire bientôt 50 ans, la révolution dite des œillets. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cet épisode? Je sais que ça peut être, mais au moins, peut-être pas sur le déclenchement. Enfin, on sait que c'est à la suite des guerres coloniales qui ont posé très lourd sur à la fois sur la société, l'économie et la politique portugaise, qui ont conduit une partie de l'armée à fomenter ce coup d'État, parce qu'à l'origine c'est un coup d'État militaire contre le successeur de Salazar, qui a mis fin justement à cette dictature. Mais pendant les deux ans qui vont suivre, il va y avoir un bouillonnement incroyable, extraordinaire, un véritable mouvement social et révolutionnaire. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques mots pendant cette période d'agitation sociale, au bon sens du terme, hein, bien sûr.
Tu l'as assez bien résumé. Alors développer ça dans un temps limité, c'est oui, difficile. Bon, il y a eu, si tu veux, un affaiblissement de l'État, forcément, parce que l'État était complètement lié au régime salazariste tardif, quoi. Salazar était mort, mais bon, c'était un système qui avait du mal à se transformer, même s'ils essayaient, enfin, de se moderniser un peu pour pouvoir s'intégrer mieux dans le cadre européen. Mais, et surtout, c'était une société qui était complètement plongée dans une guerre coloniale sans fin, qui bouffait toute l'énergie, aussi bien les énergies économiques, mais aussi les énergies humaines du pays, quoi. Et donc, l'effondrement de ce régime a laissé un espace à l'initiative collective des gens. Et on a eu affaire à un mouvement social très important, avec des occupations d'entreprises, la création d'un réseau énorme de comités de commissions de travailleurs dans les entreprises, commissions d'habitants dans les quartiers, et ensuite, après un an plus tard, avec un développement justement de ces occupations de terres dans le sud du pays dont on parlait au début de l'émission. Et tout ça, ça a créé une situation qui a échappé au projet d'origine de ce que tu appelais ce coup d'État militaire. En fait, moi, je bataille un peu d'une certaine façon pour avancer une interprétation qui n'est pas la mienne, parce que je ne pourrais pas y accéder à une interprétation comme ça tout seul, mais qui est l'interprétation de ceux qui ont vécu ce mouvement d'un point de vue libertaire, à savoir que c'est pas un coup, c'est pas, il y a eu un coup militaire, il y a eu un projet de transition d'un régime autoritaire vers un régime démocratique, mais ce projet a été à la fois accompagné et troublé, surtout troublé par l'éruption d'un mouvement social qui échappait complètement à cette idée de transition. C'est-à-dire que ce qui était très vite porté par ce mouvement, c'était un désir d'une société différente. Alors, dans ce désir-là, qui était assez, on peut dire, utopique, puisque tu parlais d'utopie tout à l'heure, et là aussi, il y avait un désir utopique, mais il y avait aussi un désir confus de quelque chose d'autre, pas simplement un remplacement d'une classe politique par une autre, avec des institutions différentes, etc. Et ça, ça... C'était porté par un mouvement très contradictoire, très foisonnant, très imaginatif, mais qui n'a pas eu... Il a eu quand même une durée de 2 ans, ce qui est quand même très important dans une société contemporaine. C'est pourquoi on pense vraiment que la Révolution portugaise, cette année, ça va faire 50 ans, donc il va y avoir des tas de célébrations, commémorations, etc. C'est pas vraiment notre tasse de thé. Mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il faudrait revenir régulièrement, parce que d'une part, ça montre comme... Dans une société qui sort d'une nuit totalitaire de plusieurs décennies, comment tout d'un coup il peut y avoir un mouvement social très émancipateur, et aussi comment on peut dans ce mouvement essayer de chercher une société différente de celle qui finalement a fini par s'installer, qui est une société de démocratie représentative parlementaire, avec tout ce que on connaît, sans aucun intérêt pour la vie des gens, quoi, si tu veux. Bon, mais
donc, excuse-moi,
résume un peu.
Juste pour en préparant cette émission, je suis allé regarder un petit peu l'histoire de ce 25 avril, et j'ai lu en particulier le déroulé de cette nuit de la prise du pouvoir par les militaires, et il y a des interventions à la radio de capitaines de l'armée qui disent à la population: ne sortez pas, ne bougez pas. En fait, et puis la population, bien sûr, va sortir. Bien et sûr. La population va s'emparer de ce moment-là. Mais pour les militaires, ça ne concerne pas la population. Ne bougez pas, on fait juste un coup pour dégager les anciens et puis mettre d'autres à la place. Mais ça vous... Ne bougez pas.
Oui, c'est très romantique. Moi, ça m'agace un peu. J'aime pas du tout faire référence à des trucs que j'ai fait. Mais là, dans le dernier numéro encore de cette revue, la Brasero, je fais un petit article sur cette question. C'est-à-dire que, est-ce que la Révolution portugaise, c'est une transition avec des excès, ou est-ce qu'elle est, en fait, une vraie révolution dans laquelle, à un moment donné, on a réussi à canaliser vers la transition. Et je pense que ce que tu viens de dire est absolument... C'est un élément... Bon, aujourd'hui, ça commence à être très connu, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu le fait que la population était dans la rue. Oui. Tu vois? Et donc, à partir de ce moment-là, les choses ne sont pas du tout passées comme les militaires avaient prévu. Ceci étant dit, il faut quand même souligner le fait que les militaires qui se sont révoltés, c'était une mutinerie militaire au départ, parce que la majorité de l'armée et des cadres de l'armée étaient avec le régime. Et cette mutinerie aurait été probablement écrasée dans le sang si le peuple n'était pas sorti dans la rue. Donc ça, c'est déjà un élément qui modifie un peu cette interprétation d'une transition démocratique. Mais les militaires eux-mêmes étaient conscients du fait qu'il y avait une situation sociale explosive dans le pays. Et si on lit le livre d'Hotel Saravet Carvalho, qui a été un des théoriciens de ce coup d'État, il le dit ouvertement dans son livre, d'une part qu'une fois que ça s'est déclenché, rien ne s'est passé comme c'était prévu. En fait, c'est parti dans tous les sens, parce qu'il y a un élément, un facteur nouveau qui n'était pas prévu, qui on ne pouvait pas prévoir, qui était la participation populaire. Et ensuite, une deuxième chose qu'il dit, c'est que il fallait le faire, ce coup d'État militaire, avant le 1er mai. Parce que c'était prévu que le 1er mai, il allait avoir des manifestations populaires très, très puissantes à Lisbonne, à Porto et dans d'autres villes industrielles, et que ça risquait de vraiment se transformer dans un bain de sang. Et donc, il voulait prendre le devant. Donc, même les militaires savaient, et c'est pour ça qu'ils disaient aux gens, restez chez vous, mais bon, c'était impossible, quoi. Les gens ne sont pas restés chez eux, quoi.
Aujourd'hui, 50 ans après, si on fait un peu le recul, et c'est ce que tu expliques dans ton livre, on passe d'une société contrôlée à une société normalisée. Sous le régime salazariste, tout était sous contrôle, tout était, une discipline de régnait avec un contrôle policier très fort. D'ailleurs, dans ton film, ils en parlent, hein, les paysans. Ils disent, il y a un moment donné, dans ce dialogue entre Antonio et puis son acolyte sur les marches d'escalier, l'un des deux, je crois que c'est l'acolyte d'Antonio, qui lui dit, mais du temps de Salazar, si jamais je voulais me débarrasser de mon voisin, j'allais à la police et puis je le dénonçais. Mmh. Et puis le lendemain, la maison était encerclée et puis c'était fini, il disparaissait. Il parle du bateau troué. Oui. Vas-y, je te laisse. C'est juste pour illustrer l'ambiance qui régnait à cette époque-là, le bateau troué.
Ah, le bateau troué, c'était... C'est de l'imaginaire populaire. Mmh. C'est-à-dire qu'il raconte à ce moment-là que la PIDE venait chercher les gens chez eux.
La PIDE, c'était la police du
régime. La police politique venait chercher les gens chez eux et les embarquait dans des voitures. Ça s'appelait ce qu'on appelait la voiture de la veuve, parce que du coup, les femmes restaient sans hommes, puisque la PIDE les embarquait. Et puis, quand il y en avait trop en prison, on les mettait dans un bateau. On faisait un trou dans ce bateau, le bateau sombrait en mer, et puis tout le monde disparaissait. C'est quelque chose que c'est étonnamment que j'ai retrouvé quand j'ai fait un film sur les Roms en Roumanie.
Il y a la même histoire.
Il y a la même histoire, ouais. Qu'on se débarrassait des Roms comme ça.
Ouais.
C'est-à-dire, alors, voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve sans doute dans d'autres situations, dans l'imaginaire collectif, quoi.
Oui, des peuples soumis à des
parce que ça correspond effectivement, c'est la PIDE venait chercher les gens.
Ouais.
Voilà, ils arrivaient, ils prenaient les gens et puis sans explication, les gens disparaissaient. Ouais. Ça, c'était réel. Et que il suffisait parfois de dire aux gens, mon voisin est communiste. Ça, c'est un truc qu'on connaît partout. Donc voilà, tout ça existait, mais les gens, il y a toujours quelque chose qui se rajoute là-dessus et qui sont une espèce de métaphore, quoi.
On a parlé beaucoup de mémoire. On va parler un tout petit peu du feu dans les quelques minutes qui nous restent là. Dans ton livre, donc, tu décris ces catastrophes dites naturelles, mais qui n'ont rien de naturel finalement quand on creuse un petit peu. Hein, ces feux de forêt qui ravagent tous les étés et régulièrement
José en a parlé aussi déjà tout à l'heure.
En fait, ces catastrophes révèlent l'état dans lequel se trouve la société portugaise aujourd'hui, avec un gouvernement et des administrations qui sont complètement démunies, qui n'expliquent pas qui disent tout le temps on va faire, mais qui n'ont rien fait et qui ne se retournent jamais sur leur propre responsabilité, avec un pays qui se vide en grande partie de ses populations. C'est ce que tu soulignais tout à l'heure, José, donc de cette désir. Toi, tu parles de sahélisation dans ton livre. C'est une référence avec l'aggravation des conditions climatiques, la sécheresse et le manque d'eau. Et en même temps qu'il y a un manque d'eau, on construit, on fabrique des golfs qui bouffent la flotte qui aurait été distribuée aux populations. Tu dis, je crois que à certains étés, il y a des gens qui manquent de flotte dans chez eux, alors que dans les zones touristiques, il y a tout ce qu'il faut pour continuer à arroser les pelouses et cette transformation justement d'une partie du Portugal.
Ça n'a fait que s'aggraver. Hein.
Voilà.
Là, ils en sont vraiment dans le sud à limiter la consommation d'eau du citoyen moyen, alors qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire avec les millions de touristes qui vont arriver. Mais c'est la même chose en Andalousie, dans le sud espagnol.
Oui, 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 c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en Afrique du Nord, manière encore beaucoup plus.
C'est quelque chose qu'on retrouve partout. Par exemple, l'histoire de la forêt qui brûle, c'est l'histoire de l'appât du gain, de vouloir rentabiliser la forêt. Par exemple, le fait déjà le pin, c'est quelque chose qui est quelque chose assez rapide dans la croissance. Mais alors, au Portugal, il y a eu l'eucalyptus qui... Alors, l'eucalyptus a deux désavantages, c'est qu'il brûle, il brûle beaucoup, il boit beaucoup d'eau.
Ouais.
Mais par contre, il est rentable très rapidement. Voilà, et c'est simplement, on ne cherche pas, c'est la question qui se pose partout aujourd'hui, sur toute la planète. Et je crois que c'est important de souligner ça, la forêt portugaise n'existe pas, pratiquement, il n'y a pas de forêt. Enfin, c'est espèce de plantation de trucs, d'arbres, de machins pour avoir de l'argent tout de suite, quoi. Même les gens le disent, quoi. Si on plante de l'eucalyptus, on a de l'argent tout de suite. Voilà, c'est ça le truc.
On arrive au terme de l'émission. Je voulais vous remercier tous les deux, Georges Valadas, pour ton livre La mémoire et le feu, Portugal, l'envers du décor de l'Euroland. C'était paru en 2006 à l'Insomniac. Est-ce qu'on le trouve encore?
Je ne suis pas sûr.
Ouais. En tout cas, c'est tout à fait enrichissant et intéressant de prendre connaissance de ce texte. Et puis, José Vieira, merci encore. Alors, je ne sais pas si on peut se procurer tes films.
Bon, c'est compliqué.
Ouais.
On peut les avoir à la librairie portugaise, notamment à Paris, d'accord. Et puis par sur Internet, à partir du site de la librairie portugaise et brésilienne à Paris.
D'accord, donc voilà. Je vais rappeler le titre de deux de tes films, donc Le pain que le diable a pétri, et puis Territoire occupé, Territorios Ocupados, mais tu en as fait beaucoup d'autres.
Oui, hein, j'ai beaucoup travaillé sur l'immigration, surtout sur l'immigration, moi, c'est pas...
Encore une fois, un rappel à notre ami Américo, à qui cette émission est dédiée. Il y aura, je pense, dans quelques semaines, une émission consacrée à Américo. Je pense que ce sera avec nos amis de Trou Noir, donc l'émission qui précède la nôtre. Tenez-vous informés. Cette émission sera disponible sur le podcast de Radio Libertaire dans quelques minutes. Et vous pouvez la podcaster sur le site de radio-libertaire.org pendant un an, ou la réécouter, ou la partager, ou la diffuser. En tout cas, merci encore à vous deux. Pour se quitter, on va écouter, si tu veux bien, Lulu, c'est la troisième sur la clé, hein, c'est la numéro 3. C'est le Grandola Villa Morena, donc qui a été le déclencheur du 25 avril. On se retrouve le mois prochain. Vous restez à l'écoute de Radio Libertaire avec nos amis de comment ça s'appelle la mission? Les syndicalistes du travail, du monde merveilleux du travail. À toi, Lulu.
Prendo la Villa Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira já não sabia a idade.
Minho, minho. est-ce qu'il est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz.
Sont pas blancs. Quand je l'ai rejoint, quand marchant joint sur son nuage, intermittent, inexistant à son image. Oh bien heureux du ventre creux du Kidordine, fier que mon parfum ressemble enfin à celui de James Dean. Je me rappelle la dernière pelle que m'a roulé le fossoyeur, le vendévoyeur venu saluer. Pauvre rhino, triste plateau, trois planches de chêne, sans fil d'attente devant ma tente, oxygène. Quand les corbeaux ont trouvé beau et les verbeaux, quand mon trépas ne trouva pas aucun pont, pour faire un vœu, le temps de venir voir la mer, à l'heure où sonnent des téléphones imaginaires. Je me souviens avoir en vain prêté d'ordure, le vent qui frôle est un peu trop à sépulture. Ce vent doux qui m'avait ravi l'envie de dire suffisamment qu'on va s'évanouir comme on respire. Quand je fus une ambule, un seul scrupule, avoir peut-être choisi l'enfer sans avoir fermé la fenêtre, c'était l'espoir d'entendre et voir.